Ce serait quoi les deux lieux, les deux terres auxquelles vous pensez tout de suite qui sont attachées à un moment de votre vie? Sébastien Betbédé.
Alors moi je citerai en premier les montagnes des Pyrénées, parce que je suis né à Pau, et on parlait de, un peu avant l'émission, de terre-refuge, et un lieu très particulier des Pyrénées, une vallée très particulière qui s'appelle la vallée d'Ossau, et un endroit où je retourne souvent, et que j'aime, voilà, qui fait partie de... Bah, de mon passé qui me rattache vraiment à ce lieu de manière très forte. Et le second, ça serait l'île de Groix, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, en particulier un endroit qui est pas sans rappeler la terre de Watership Down, parce qu'il y a beaucoup de lapins sur cet endroit-là. C'est un endroit qui s'appelle le Trou de l'Enfer, et qui est une espèce de lande très aride, et un paysage absolument splendide et propice à beaucoup de fiction.
Thomas Blanchard.
Le premier, en fait, ce serait ma première adresse à Paris, et c'est le 3 rue Ribouté, dans le 9e arrondissement. C'est ma première adresse. J'avais 18 ans quand je suis arrivé à Paris, et c'est un immeuble juste en face d'un hôtel. Et donc j'avais un vis-à-vis très très direct comme ça face à cet hôtel où il se passait plein de choses, et ça a été une adresse marquante parce que c'est le début de quelque chose. Pour moi, c'était faire du théâtre, être à l'école, faire du théâtre toute la journée. Voilà, donc c'était important. Et puis c'était aussi commencer à être adulte au fond. Et puis le deuxième lieu, je dirais la Faute-sur-Mer, parce que mes parents ont une maison donc là. Et c'est un lieu qui a subi la tempête Xynthia. Donc c'est un lieu à la fois pour moi de vacances et d'été, et aussi un lieu qui a été traumatisé en fait. Et voilà, c'est un lieu que j'affectionne beaucoup.
Et Florence Lazare ?
Ce serait aussi Paris, parce que je suis à Paris. Je pense que c'est le lieu que je connais, reconnais dans le 14e arrondissement.
Il faut qu'ils comprennent ça. Hein. Rien n'est encore tout à fait réglé. Mes enfants sont nés dans le combat, dans la lutte. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est que cet espace ne soit pas démembré, qu'on arrive à la garder dans son authenticité et dans sa fonction.
Il est 23h et le paysage nous trahit. Il dit si on va rester, si on croit en la durée, si on a peur du départ. Il dit si on s'est vraiment installé, si on a confiance ou pas. C'est Véronique Mongeant dans un champ en Martinique, devant la caméra de Florence Lazare, qui dit « La lecture d'un paysage, ça nous permet de connaître la vie des gens qui vivent dans ce paysage. » Elle regarde autour d'elle et elle voit une incertitude. L'homme n'a pas planté d'arbres. Il ne croit pas aux années qui arrivent, à l'éternité. Il lutte pour son espace. Le paysage dit en silence ce que l'homme n'avoue pas. Il a été malmené, il se méfie. Le paysage traduit parfois la prudence. Une autre fois en Serbie, au début des années 2000, un des paysans dit à Florence Lazare « Il y avait beaucoup d'amour et tout s'est éteint ». Son exposition au Jeu de Paume reprend les mots de la tempête d'Aimé Césaire. « Tu crois que la terre est chose morte, c'est tellement plus commode. Morte, alors on la piétine, on la souille, on la foule d'un pied vainqueur ». Florence Lazare, elle, filme la terre vivante, le paysage qui parle, des humains qui font parler les pierres comme ça les arrange parfois, d'autres qui se posent des questions sur l'espace de leurs actions. Elle filme en ex-Yougoslavie, en Martinique ou à Paris, la terre malmenée. Thomas Blanchard et Sébastien Bedbédé, eux, mettent en scène « La terre entière sera ton ennemi ». C'est un roman de Richard Adams qu'ils adaptent. C'est l'histoire de deux lapins, de deux frères. L'un d'eux a une vision. Il faut partir, fuir la catastrophe. Il cherche alors un lieu, élevé, sec et isolé. Il cherche la sécurité et il pense « Dans ce paysage inédit, il y a peut-être une vie à recréer ». Mais le paysage ne se laisse pas raconter comme ça. Il y aura donc Florence Lazare. Son exposition « Tu crois que la Terre est chose morte » se poursuit au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 2 juin. Il y aura Sébastien Bedbédé et Thomas Blanchard qui mettent en scène « La Terre entière sera ton ennemi ». Ce sera du 23 au 30 avril au Quartz à Brest. À la musique, en studio avec nous, il y a Sarah McCoy. Son album s'appelle « Blood Sirène ». Elle sera au Café de la Danse à Paris le 25 septembre et au Printemps de Bourges le 18 avril. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par une histoire de lapin.
Alors, je suis parti dans ce livre et c'est une merveille. C'est une merveille parce que je trouve qu'il y a tout dedans. Évidemment, c'est une histoire de lapin, hein, c'est une histoire de deux frères, hein, Fiver et Hazel, qui sont dans leur garenne, plutôt tranquille, et qui, ce Fiver, qui est un petit lapin chétif, etc., a quand même des dons de voyance, et il sent qu'il va y arriver quelque chose de dramatique dans sa garenne. Donc, il décide de partir avec un petit groupe, et ils vont aller d'aventure en aventure. Et c'est là que c'est assez génial, c'est parce que c'est à la fois une ode à la nature, c'est à la fois des sentiments, allez on pourrait dire humains, d'amour, d'amitié, de rivalité, des notions politiques. Et on suit les aventures de ce petit groupe et entre autres de ses deux frères. Et c'est passionnant, on ne le lâche pas jusqu'au bout. Il y a vraiment ici, je ne saurais pas le qualifier, est-ce que c'est... simplement un roman d'aventure, simplement un roman sur la nature. Je trouve que ça va bien au-delà.
C'est l'enthousiasme d'un libraire pour le livre de Richard Adams, Watership Down. Comment vous l'avez découvert, Sébastien Bedbédé, Thomas Blanchard, ce roman ?
À vrai dire, je l'ai lu en premier, en fait, et on passait le réveillon ensemble, je me souviens, en Normandie. Et je lui ai parlé à Thomas de ce roman que j'étais en train de finir. Et en lui disant simplement que j'étais un peu comme ce libraire, j'avais l'impression de découvrir quelque chose qui était absolument inédit, un texte sur lequel on pouvait greffer énormément du contemporain. C'était certes une histoire de lapin, mais comme dit ce libraire très bien, mais pas que. C'était une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'elle pouvait laisser entendre. Je m'étais aussi renseigné sur l'auteur à ce moment-là, et la façon dont ce texte est arrivé dans sa vie, assez tard, à 54 ans je crois, ou un peu plus tôt, mais en tout cas il était dans sa voiture avec ses deux enfants. Il allait sur le territoire de Shakespeare en fait, en Angleterre, et ses enfants lui demandaient pendant le voyage de raconter une histoire, et c'est comme ça qu'est née cette histoire d'Azel et Fiver, de ces deux lapins. Et donc j'en ai parlé à Thomas, sans vraiment du tout imaginer qu'on en ferait quelque chose au théâtre, parce que pour moi-même, et je continue un peu à penser ça, c'est peut-être c'est le livre absolument inadaptable au théâtre. Et
vous auriez pu penser au cinéma ?
Non, encore moins, je crois. Et en tout cas, donc quand Thomas l'a lu, et un ou deux mois après, il est revenu vers moi en me faisant cette proposition-là, pourquoi pas l'adapter ? Et donc j'avais cette idée un peu, j'étais pas du tout sûr que c'était une bonne idée. Et en tout cas, je me suis dit que après avoir pris un temps de réflexion, je me suis dit que, vu la motivation de Thomas et les arguments qu'il avait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très beau à faire si on se libérait, en fait, aussi de ce texte. Si on le considérait comme un matériau, vraiment. Et voilà, et s'en libérer, et pour le transposer un petit peu ailleurs, en étant évidemment dans une fidélité aux enjeux qu'il expose.
Sur scène, il y a deux comédiens, Thomas Blanchard. Vous êtes, ils sont tous les deux avec des sacs à dos et ils partent à l'aventure et ça part d'une catastrophe qui s'annonce puisque un des deux lapins dans le roman a l'impression qu'il faut vite là quitter la Garenne et qu'un danger imminent arrive. Donc c'est l'histoire tout de suite d'un exil. Ça commence par un départ.
Ouais, ça commence par une
par
vision.
La peur.
Une vision. Moi, c'est ça sans doute qui m'a en le lisant, c'est-à-dire j'étais en train de le lire justement, enfin comme Sébastien vient de le dire, c'est-à-dire que je l'ai lu et puis en le lisant presque immédiatement, je me suis dit mais c'est tellement des sentiments fous en fait et puis tellement anciens presque aussi, c'est des peurs anciennes, des peurs d'enfant, des qu'est-ce que c'est que devoir partir comme ça en catastrophe, avoir la vision d'une catastrophe. Je sais pas, pour moi, c'était immédiatement relié au théâtre, en fait. Et à la fois au fait de le jouer, d'incarner ça, de traverser ça, et en même temps d'explorer ça par l'adaptation qu'on devrait faire, justement, du livre. C'est vrai que c'était... le livre, il fait 500 pages, il y a plein de personnages, il se passe plein d'événements. Donc l'adaptation au théâtre, le rapport au théâtre, c'est justement... aller dans des choix, avoir une vision nous-mêmes du livre. La première chose, je crois, qui a été le point de départ pour nous deux, qui était évident, c'était de partir de ces deux lapins-là, en fait, de ces deux frères, et de n'être que deux. Ça, c'était presque instinctif. Enfin, c'est comme l'envie de monter un projet. C'est d'abord quelque chose de très instinctif, en fait, pas forcément... si compréhensible ou très pensé, mais voilà, c'est quelque chose de l'ordre d'instinct. Et donc, à partir de là, ben, on a commencé à rêver aussi avec qui. Et dès qu'on a rencontré Dimitri Doré, qui est mon frère lapin, ben, c'était évident. Bon, on l'a rencontré grâce au spectacle de Jonathan Capdevielle, à nous deux maintenant. Voilà.
Et alors, ces deux lapins, ils partent à la quête d'un lieu élevé, sec et isolé, en tout cas de la sécurité. Il y a une question qui arrive assez rapidement, c'est est-ce qu'une telle terre existe? Est-ce que c'est une illusion? Et pourquoi aller par là? Qu'est-ce que ça racontait pour vous, cette question-là?
Il y a quelque chose qu'on a appris, qu'on a compris au fur et à mesure du travail de l'adaptation sur le texte, dont on a fini, à vrai dire, les derniers détails de l'adaptation il y a deux jours, je crois, en fait, parce que c'était ça qui était absolument incroyable et très génial dans ce travail-là. C'était comme quoi ce matériau était tout le temps en évolution. Et ce qu'on a compris assez tard et qui est en fait qui était sous-jacent depuis très longtemps, c'est que cette terre promise, qui quitte une Garenne pour arriver ailleurs, ou il quitte un territoire pour en chercher un autre, qui serait l'endroit, la terre promise. En fait, pour l'un des frères, je pense que cette quête, elle est vaine. C'est-à-dire que même, je pense qu'il n'y croit pas, au fond. Là, je parle du personnage de Fever, celui qui a des visions, celui qui a des pressions. Non, plutôt celui qui a des pressions.
Ah, le premier, pardon.
Celui qui quitte le premier territoire. Et je pense que sa quête à lui, c'est le voyage, en fait. C'est ne pas s'arrêter, c'est toujours continuer, toujours repartir, ne jamais s'arrêter. Là où Hazel croit plus à la possibilité d'une communauté. D'ailleurs, il y a un moment du texte qui emploie ce mot de communauté, de croire que on pourra reconstruire quelque chose et on pourra refaire venir les familles, refaire venir, reconstituer un territoire, et un territoire habité d'autres gens. Et c'est cette différence entre ces deux frères qui fait tout l'enjeu, je trouve, de ce qu'on est en train de fabriquer, qui est sur cette question-là pas du tout éloigné de Watership Down, le roman de Adams.
Il y a justement la question de la solitude ou de la communauté à recréer. Est-ce que tout seul on y arrive, ou est-ce qu'on a besoin d'être deux ou d'être plusieurs pour recréer cette communauté?
Ouais, mais je pense que pour avancer, en tout cas, il faut être deux. Ouais,
c'est ce dont ils se rendent compte.
C'est ce dont ils se rendent compte. Il est question à plusieurs moments de cette aventure, hein, parce que c'est quand même une aventure en fait, avec beaucoup d'événements. Il est question qu'ils se séparent, et dès que la séparation est envisagée, le drame arrive en fait.
Est-ce que vous avez, en adaptant le texte, pensé à un moment ajouter des personnages, ou est-ce que tout cela s'incarnait vite dans ces deux corps-là, à travers les deux comédiens?
En fait, c'est ce que m'a proposé tout de suite Thomas en lisant le livre, l'idée d'être simplement deux, justement. Quand vous m'avez posé la question, est-ce que c'était adaptable au cinéma, avec deux comédiens, c'est pas possible de tenir une telle histoire, en fait. Au théâtre, il y a cette question de l'incarnation, de la liberté qu'on peut se donner, la liberté ne serait-ce que de se dire qu'un comédien peut interpréter plusieurs personnages, c'est un code qui est très vite accepté, en fait. Donc on savait qu'on avait cette possibilité-là, et on en a assez, facilement usé, en fait, de cette liberté-là. Après, ce qui est arrivé très vite en cours d'écriture, c'est cette idée que il y avait Hazel et Fever, mais il y avait aussi ce que nous, on nomme...
Les compagnons.
Voilà, les compagnons, ou H et F, ces deux personnages qui, en parallèle de cette histoire de lapin, ont leur propre histoire à vivre. Et c'est ce va-et-vient entre cette histoire de lapin et cette histoire d'homme que se déroule l'action.
Et au moment où ils partent parce qu'ils ont peur de la catastrophe, mais quand ils arrivent et qu'ils rencontrent l'étranger, ou tout à coup, ils le disent, tout ce qui est nouveau nous inquiète.
Peur, ouais.
Donc en fait, la peur, elle ne reste pas derrière, elle revient
peur,
sans cesse.
Ouais, elle est constante, ouais. C'est la terre entière sera ton ennemi, et à la fois, c'est... comment dire, une menace constante, et puis en même temps c'est aussi un défi, un challenge constant aussi, et cette peur elle leur colle à la peau, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle leur voilà, elle les motive à vivre aussi, elle les fait vivre aussi.
Est-ce qu'on peut lire un petit extrait? Alors là c'est un peu plus tard dans le voyage.
Alors là, l'extrait, c'est plutôt quand un des personnages arrive et raconte finalement la catastrophe auquel ils ont échappé. La nuit de votre départ de notre Garenne, la Hourda a été lancée à vos trousses, comme cela paraît lointain aujourd'hui. On vous a traqué jusqu'au ruisseau. Les traces indiquaient que vous aviez longé le cours d'eau. Ce n'était pas la peine de risquer nos vies pour vous rattraper. Vous étiez parti. Tant pis. Le lendemain, j'étais dans le terrier. J'ai entendu un grand remue-ménage au-dessus, en surface. J'entendais les voix des hommes et le bruit d'objets qu'ils manipulaient. Il y a eu une sorte de sifflement et je sais que c'est difficile à comprendre. Mais en un instant, l'air est devenu irrespirable. Une fumée est apparue. Je ne voyais plus rien, mes idées s'embrouillaient. J'avais l'impression que j'allais tomber. J'ai senti le poison. Très vite, les galeries ont été encombrées. Les lapins grimpaient les uns sur les autres, remontaient les boyaux qu'ils avaient l'habitude de suivre, mais les trouvaient obstrués. Certains parvenaient à faire demi-tour, mais se heurtaient aussitôt à ceux qui arrivaient en sens inverse. Les cadavres ont commencé à bloquer les tunnels dans les parties basses et les survivants les piétinaient. Je ne saurais jamais comment j'ai réussi à sortir vivant de ce massacre. Vous vous souvenez de cette profonde galerie qui semblait ne mener nulle part et que plus personne n'emprunte depuis bien avant notre naissance? Celle dont on ignore même qui l'a creusée? Je m'y suis engouffré sans hésiter, et je me suis mis à ramper. C'est comme ça que j'ai pu me sauver. Je suis retourné dans le bois. J'ai couru, jusqu'à arriver jusqu'ici.
Les hommes ont mis des pièges, beaucoup de pièges, et il y a aussi une pensée de la nature et du paysage que traversent ces lapins et qui est menacé par la présence des hommes et de ce qu'ils imaginent pour détruire le paysage qui a été construit.
Oui, c'est vrai, c'est un livre qui parle beaucoup du paysage, de l'environnement, de sa destruction. Et effectivement, le texte que vient de lire Thomas évoque la destruction de cette première Garenne. Et voilà, on peut faire des liens, des parallèles assez forts avec d'autres époques, d'autres moments forts de l'humanité. Et c'est vrai que le paysage est très présent, et nous, dans notre adaptation, on a voulu vraiment privilégier ça, c'est-à-dire que dans la pièce, on laisse une part très prépondérante à une espèce de narration, de voix off. Et souvent dans ces voix off, on reprend des pages de Watershed Down telles quelles, et c'est des pages qui décrivent des paysages absolument splendides la plupart du temps, une nature omniprésente, une nature qui aujourd'hui est de plus en plus difficile à trouver. Et c'est très étonnant quand on entend ces descriptions-là, de se dire que c'est déjà une rareté, quoi, en fait. Et on a voulu aussi dans cette pièce jouer des paradoxes, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes, et en particulier sur des questions scénographiques du paysage qu'on avait à montrer, parce que évidemment il traverse des paysages multiples, très différents, souvent très beaux ou très mystérieux, et sur le plateau on a pris le parti pris d'avoir un seul paysage qui était une espèce de terre aride. D'après des astres, en fait. Et ce qui nous intéressait dans ce choix-là, c'était comment s'entrechoquer le texte, cette description-là, avec ce que verront les spectateurs au théâtre.
Et pourquoi, à un moment donné, il faut troquer la liberté contre la sécurité, si on veut la sécurité ?
L'idée de sécurité dans le texte d'Adam, c'est dans notre adaptation, c'est pas exactement la même que la façon dont on use de ce terme aujourd'hui. En fait, il y a dans ce texte, je crois que dans ce texte, la sécurité, c'est fonder une famille, c'est l'amour de l'autre, le partage, la communauté, c'est ça, c'est avoir besoin des autres pour mieux vivre. Enfin, le texte. Dans ce texte-là, il y a cette idée que pour vivre bien, il faut vivre ensemble. Voilà. Donc c'est, je pense que la sécurité, elle est vraiment liée à cette idée de communauté.
Mais dans le texte d'Adams, elle est, et dans le spectacle aussi, la question de quel genre de communauté, quel genre de société, dans quelle société on choisit même de vivre, ou comment on s'organise ensemble, ça, voilà, c'est vraiment une question importante du livre. Et il y a différents modèles de Garenne, il y a différents modèles de moments, voilà, qui vivent, et c'est ça que le spectacle questionne aussi, en fait. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs, and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery of, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up?
Vous avez reconnu Sébastien Badbédé?
Oui. Okay, Tempest, Europe is Lost. Ouais. C'est un morceau qu'on va utiliser pendant le spectacle. C'est un moment qui est une espèce de moment un peu à part, où Thomas et Dimitri se lancent dans une chorégraphie inoubliable, voilà, qu'on a encore à beaucoup répéter, mais qui s'annonce inoubliable. Et voilà, c'est un titre qu'on a beaucoup hésité à utiliser, Bah, comme on laisse entendre depuis pas mal de temps, depuis qu'on parle de notre travail, il y a cette idée de faire des parallèles avec l'époque, avec évidemment, bah, puisqu'on nous en parle et puis on n'est pas innocent aussi la question des réfugiés. Il y avait ce morceau de Kate Tempest qui résonnait très fortement et qui a amené quelque chose d'absolument un peu souligné. Alors on avait un peu peur que ça soit un peu trop souligné, parce que je crois que, enfin, je relisais en fait un entretien de Richard Adams il y a quelques jours, et il disait que il se défendait de faire d'avoir écrit un livre politique. Il disait que le politique c'était pas dans son écriture, c'était pas son projet, mais qu'il devenait politique dans les yeux des lecteurs, et c'est eux qui en faisaient un objet politique, et je pense qu'on est un peu dans la même position. Voilà, le texte de Kate Tempest est hautement politique, mais quelque part on lui laisse la parole à ce moment-là.
Sarah McCoy vient d'enregistrer l'album Blood Sirène. Elle est en studio avec nous à Paris, mais sa terre à elle, c'est la Nouvelle-Orléans. Elle y a beaucoup joué. On dit là-bas que c'est un ouragan. Elle a un tatouage Jurassic Park sur le bras qu'on avait remarqué. Elle a la voix puissante, elle fait trembler la terre qui semble parfois même lui répondre. Et le premier morceau s'appellera Boogeyman.
Je suis Sarah McCoy en studio avec Florence Lazare, Thomas Blanchard, Sébastien Bébédé. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
Et l'histoire de Boogeyman, c'est quoi, Sarah?
En fait, j'ai rencontré un mec juste une fois et j'ai tombé amoureuse. Bah, en fait, il est disparu. Donc, j'ai écrit cette chanson pour dire je veux te chasser, te manger, t'attraper, etc. If I could catch you like a fish, if I could weave a web of time, I would catch you in a moment now, and in that moment for forever you'd be mine. Well, I would hunt you like a wolf. I would stalk you through the night. I'd be hiding in a shadow now, where you can't see me, until the moment is just right. I would be your boogeyman, hiding underneath your bed. Well, now I will watch you sleeping, yeah, lovely dreaming. Well, I would hold your hand. I would be your boogeyman. Yes, I would be your boogeyman. Track you, bait you, I would find you and sedate you. I'd tie you, I'd cage you, then I'd rename you, but you in captivity is too heartbreaking for me. I'd like to trap you,
to rock you and keep you, but I'll catch you, baby, and release you, because I can. Because I can. Because I can.
On pensait différemment il y a 10 ans. En fait, à cette époque, en 1989, lors de l'ascension de Milošević, plus de 90% de la population serbe le soutenait. Mais les choses ont changé depuis. Nombreux sont ceux qui, à cette époque, ne voyaient pas, n'étaient pas conscients de la ruine vers laquelle il nous menait. C'était un homme très doué, mais uniquement pour assujettir son propre peuple. Autrement, jusqu'à présent, il a perdu sur tous les fronts. Il est en effet personnellement responsable de la défaite de son peuple. Et aujourd'hui, dans la mesure où, dès les premiers jours, j'ai été contre lui et son gouvernement, je suis en quelque sorte déçue. J'avais espéré que ça finisse beaucoup plus vite. Après tout, ce qui est arrivé, après toutes ces défaites et toutes ces épreuves imposées au peuple serbe, je me demande ce que l'on pourrait faire de plus pour que le peuple le rejette.
Florence Lazare, vous avez lu un extrait en fait des paroles d'un homme dans la vidéo Les Paysans, qui date de 2000. Est-ce que l'envie de filmer les gens, ça correspondait au moment où vous aviez l'envie de retourner, d'aller dans ce pays avec lequel vous aviez des liens?
C'était pas tant de filmer les gens, mais effectivement, quand je suis donc retournée avec ma mère en 99... En Serbie, j'ai laissé de côté mon appareil photographique, qui était, on va dire, mon moyen de production, et je suis partie avec une caméra dont j'en connaissais pas vraiment, en fait, complètement. Je connaissais pas totalement cet outil, et j'étais plus déterminée de retourner dans ce pays avec plutôt lié à un contexte en fait qui m'affectait qui m'affectait depuis les prémices de la guerre, et plutôt avec la question comprendre ce qui a aussi animé les débats de l'époque, qui était que cette guerre elle était causée par une espèce de violence ethnique, barbare, de tous les temps. C'était un peu l'enjeu des débats à l'époque. Ou plutôt celle, moi, que je partageais, qui était, en fait, qui avait été construite assez méthodiquement, organisée par une violence politique. Donc, tout ça pour vous répondre, en fait, que ce qui m'intéressait, c'était de recueillir un peu les paroles des personnes, d'essayer de comprendre justement tous ces rapports, de perception. Et j'ai rencontré ce paysan.
Et le lien entre vous et eux, c'est votre mère, puisque c'est elle qui détient la langue que vous ne parlez pas à l'époque.
Oui, c'est vrai que dans ce retour, elle a été en même temps ma traductrice et mon guide.
Et vous ne parlez pas du tout la langue quand vous y allez en 99.
Non, je la parle pas, mais elle m'est très familière. Je l'entendais très loin. Enfin, je l'entendais quand ma mère était au téléphone avec ses copines. Quand elle était, parce qu'elle a, bien sûr, elle a pratiqué, quoi, mais elle nous était jamais adressée, ni à mon frère, ni à moi.
Et dans Les Paysans, comme on le retrouve dans un des films plus récemment, on en parlera, en Martinique, vous filmez la parole, mais vous filmez aussi les corps dans le paysage en train de faire, en train de faire leur travail. Là, ils sont en train de ranger des bouts de bois, ils racontent ce qu'ils font avec les vignes. Et en fait, ils vous parlent, mais tout en continuant leur travail, ils s'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas le cours de leur travail,
de leur vie temps de travail. Pour, bah leur, oui, pour vous parler. Le travail, c'est de l'argent. Enfin, c'est, je sais pas, c'est... Quand vous filmez, en fait, des, enfin, voilà, des gens pour lesquels le travail est... ne s'arrête pas, c'est très difficile, en fait, d'interrompre ce temps de travail. Mais après, au-delà de ça, je pense que ce que je cherche, et enfin, en tout cas, ce que j'ai trouvé, avec les paysans, avec cet interlocuteur qui justement est sans cesse en train de travailler, donc de mettre en jeu son corps, ses gestes et son mouvement. Cette mise en geste et en corps lui permet en fait de construire un récit et mettre une parole. Peut-être qu'il n'aurait pas délivré de la même manière s'il n'avait pas été dans ce temps-là de travail. De manière assez étonnante, c'est ce qui s'est, on va dire, répété. Enfin, je ne sais pas si c'est répété, mais en tout cas, réamorcé quand j'ai filmé Véronique Montjean en Martinique. Là, avec aussi d'autres moyens de production. Enfin, avec d'autres moyens de production. Enfin, dans le sens, voilà, où j'avais une petite équipe, alors qu'avec les paysans, j'étais seule avec ma mère. Bon. Mais ce qui est intéressant, parce que là, j'en reviens, en fait, et je vais montrer le film à Véronique Montjean, elle était assez heureuse, d'ailleurs.
Véronique Montjean, donc, c'est un autre film qui est beaucoup plus récent, qui date de maintenant, 2019.
2019.
Et on entendait un tout petit extrait au début de l'émission. Elle parle de l'agriculture en Martinique et d'un espace qui a été occupé, en fait, par, justement, un groupe qui refuse toute cette agriculture conventionnelle avec des insecticides, tout ce qui a menacé pas mal la santé de beaucoup d'entre eux là-bas, et donc elle raconte la lutte pour cet espace et cette façon de cultiver. Et elle est au milieu du champ.
Voilà, oui.
Et vous venez de lui montrer le film.
Oui. Voilà, et pour reprendre votre question au départ de ce rapport, en fait, de relation de parole au geste, je commence à comprendre, en fait, que je suis assez intéressée d'essayer de travailler à partir... des lieux de production, de la construction de lieux de production, et que les lieux de production, en fait, pour moi, finissent par être aussi des lieux de pensée, enfin, des lieux aussi de construction de l'histoire.
Et là, il dit des choses assez fortes dans Les Paysans. On l'a entendu, vous avez lu un petit extrait, mais il raconte de quelle façon tout ce qui a changé en 10 ans, et de quelle façon il a l'impression d'avoir été mené dans la misère par Milosevic, et de ne pas l'avoir compris assez vite, en fait.
Je crois que lui, il avait compris depuis le départ. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, à l'époque, Milosevic était encore au pouvoir, donc la parole ce type de parole était extrêmement rare, et dans une circulation, on va dire, publique. D'ailleurs, je pense qu'elle est encore extrêmement rare.
Puis il a aussi beaucoup d'humour. Il dit les Serbes adorent faire la fête, ils fêtent leur malheur, mais ils fêtent.
Mais ils fêtent, oui, tout à fait, oui. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il faisait vraiment il fait la distinction de cette construction, de cette violence étatique, quoi.
Voilà, oui, il dit qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'on le rejette, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ce qui a été fait pour finir par refuser.
Ouais, tout à fait.
Et en filmant la parole, il y a un autre, au jeu de paume, il y a plusieurs films, et ça commence par Les Paysans, et puis pas très loin, il y a le film Les Femmes en Noir, et c'est un dispositif intéressant aussi pour filmer la parole, parce que c'est une réunion entre femmes qui échangent entre elles et qui parlent de la responsabilité peut-être individuelle dans cette collective justement, de toutes ces femmes ensemble, et qui disent mais nous, en même temps, on n'a pas refusé en bloc, enfin les femmes, quel était notre espace d'action. C'est très intéressant leur discussion, et vous filmez à la fois la parole et puis les visages.
Et surtout les visages.
Et surtout les visages, voilà.
Les visages qui écoutent.
La parole qui circule.
Ouais. Oui, alors aussi de manière très pragmatique. Du coup, j'étais sans ma mère, donc sans mon guide et sans ma traductrice. Ce groupe que j'ai filmé, c'était au Monténégro. Et c'était des femmes en fait qui venaient de villages complètement isolés, qui pour la plupart, voire de villages albanais aussi, hein, parce qu'on n'était pas très loin de l'Albanie. Et certaines n'avaient même pas prévenu leur famille ou leur mari qu'elles venaient. Hein, c'était donc il y avait quelque chose de, c'est presque une métamorphose quoi. Enfin, on est en face d'un corps en fait politique souterrain qui est en train de se constituer devant nous, quoi.
Et c'est un mouvement féministe, anti-militariste, donc elles réfléchissaient ensemble à justement l'action qu'elles pouvaient avoir pour modifier les choses. Et est-ce que elles posent des questions vraiment très fortes,
très précises.
Pourquoi on a été passive? Est-ce qu'il a déjà existé un refus collectif des femmes? Et c'est vrai que c'est des questions juste après un conflit qui sont pas évidentes et qui sont pas souvent posées en ces termes-là dans un collectif de femmes comme ça. Est-ce que vous avez découvert ce qui se disait après?
J'ai découvert après, mais après mais je sentais, hein, de toute façon, enfin après moi je discutais entre quand même, donc je savais quand même de quoi il était question. D'ailleurs la société serbe est une société complètement machiste et mais vraiment, enfin c'est dur, ça fait partie de ces sociétés. Très va-t-en guerre. Enfin, donc il y a une relation. Cette société et cette relation à aller à la guerre. Enfin, à la guerre. Enfin, c'est très 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 connecté. Enfin, c'est une forme aussi d'archaïsme. Hein. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être encore en jeu maintenant. Et elles sont encore actives encore maintenant. Hein.
On va écouter la voix de Daniel Stilinović qui parle de l'auteur yougoslave Ivo Andrić, prix Nobel dans les années 60 de littérature.
Andrić est un Croate. C'est un Croate et il est profondément pro-yougoslave, ce qui fait que même dans sa langue, il n'écrira plus en croate, mais en serbe. De telle sorte, je crois, qu'il contribue, lui il était diplomate, qu'il contribue à sa manière à réunir tous ces peuples. Cette chronique est à mon avis un peu prophétique en ce sens que elle montre au cours des siècles la cohabitation constante qu'il y a eu entre Serbes, Croates et musulmans bosniaques dans cette région des Balkans. Ce livre m'a fasciné par son climat. Son climat, c'est l'Orient. À l'endroit où l'Orient et l'Occident se rencontrent. C'est les Bosniaques qui vivent là, musulmans, sont des Européens, mais ils sont déjà de religion musulmane. On a deux mondes, un monde, disons, chrétien, qu'il soit d'ailleurs serbe, orthodoxe ou catholique, croate, et puis un monde musulman. On a tout le peuple, alors là, qu'il soit catholique ou orthodoxe ou musulman, le petit peuple des dominés face à ses dominants, ses gouvernants, qui à l'époque de cette chronique, c'est encore l'Empire ottoman, sont les Turcs. Mais déjà l'Autriche-Hongrie pointe le bout de son nez pour commencer à annexer les régions voisines. Et finalement, tout le monde arrive à passer les siècles à peu près en paix, dans une grande tolérance mutuelle. Et ça, c'est, je crois, la grande leçon de ce livre, dont l'histoire donc commence au 12e pour finir à la guerre de 14, où le fameux pont est coupé par une explosion, enfin saboté, miné, et puis par la suite il sera évidemment reconstruit.
Le livre le plus célèbre d'Ivo Andrić s'appelle Le pont sur la Drina, et le pont sur la Drina, il se trouve à Visegrad. Et c'est là où vous avez, entre autres, été filmé, en tout cas, vous vous êtes posé la question de cette nouvelle ville qui se construisait dans la ville. C'est un projet d'Emir Kusturica, le cinéaste, qui a construit un village à l'intérieur de Visegrad qui était destiné à être décor de films et parc d'attractions pour les touristes. Et Ivo Andrić, c'était vraiment un yougoslave, et c'est vrai que c'est assez drôle au début quand il dit c'est un croate, il écrit en serbe. Enfin, tout le monde essaie de se raccrocher ou de récupérer en tout cas l'histoire de cet homme qui était vraiment, vraiment en effet pro-yougoslave et qui aurait sûrement été très triste de la suite de l'histoire. Pourquoi vous avez eu envie de raconter l'histoire de ces nouvelles pierres et ces titres d'un des films, enfin du film qui s'appelle Kamen?
Alors au départ, mon projet était en fait d'essayer de comprendre à Trébenié, qui est donc la ville, une ville au sud en fait de la République Srpska, de comprendre pourquoi une église byzantine avait été construite de toutes pièces et qui ressemblait à une église au Kosovo qui s'appelle l'église de Gračanica. En fait, donc là. Enfin, ça a été déjà un premier indice pour moi, en fait, où je me suis aperçue que la construction de toute pièce de ce patrimoine était une manière, en fait, pour les Serbes, qui sont maintenant majoritaires sur ce territoire-là, de légitimer leur antériorité, et qui était, en fait, une manière d'effacer la culture bosniaque, littéralement, en fabriquant ce nouveau patrimoine. Donc, de réécrire l'histoire, donc de falsifier l'histoire. Et au moment du tournage, quand j'ai été à Trébrigné, je suis tombée vraiment par hasard sur le chantier que menait Kusturica. Lui, il n'était pas là, mais c'était lui qui le finançait. Et ce chantier, d'ailleurs, était juxtaposé à un monastère ancien et dans lequel Karadžić avait été caché, quoi. Donc c'est pour vous dire, en fait, comprendre en fait l'intrication entre l'Église orthodoxe et l'ultranationalisme qui continue à être en cours dans cette région. Donc et je découvre en fait que c'est Kusturica donc qui va prendre des pierres issues des ruines austro-hongroises ou de maisons de vieilles maisons qu'il va remodeler et qu'il va ensuite acheminer dans son nouveau chantier à l'est de la Bosnie à Visegrad. Donc là pour moi ça a été une découverte, mais finalement une manière aussi de comprendre cette logique à l'œuvre, un peu implacable, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller filmer ce chantier, où bien sûr je me suis travestie, j'ai bien sûr pas dit quels étaient les enjeux de mon film.
Il y a Sarah McCoy qui est toujours en studio avec nous. On va écouter un nouveau morceau de l'album Blood Sirène, et ce morceau s'appelle Hot Shot.
Baby, what's your name? I think that I've seen you before now. Might have been under a different face, but I can't quite tell for sure now. You came in hoping you could open the door, but your head started spinning and you hit the floor. One step closer, baby, and I'll take my shot now. Them stakes are high, damn betting high. There's something in my blood and he's been burning red. I'll dance with the devil till he puts me to bed. And the risk is high, so I'm betting low. Two quarters and a dime are gonna save my soul, babe. But everything you think you deserve, you're gonna lose it, baby, na 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 na. Because you don't know, you don't know what I'm worth. Oh no, yeah, you don't know. Oh, 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 oh. You don't know now. You're gonna lose it, baby, na na na. Because you don't know, you don't.
don't know a dime worth. Baby, come here now. You know I'm a lucky man, yeah. Got myself a killer poker face. Now I always got the winning hand. You came in hoping you could open the door, but your hands started spinning and you hit the floor. Well, step close, so baby, I'll take my shot now. Them stakes are high. My blood needs to be burning red. I'll dance with the devil till he puts me to bed. And the risk is high, so I'm bidding low. Two quarters and a dime are gonna save my soul, babe. But everything that you think you deserve, you're gonna lose it, babe. Na na na. Because you don't know yet. You don't know what I'm worth. Oh, no, no, no. Oh, you're gonna lose the eight. Well, you don't know. You're gonna lose the eight. Well, you don't know. You're gonna lose it, babe. No, 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 no. Because you don't know. Well, you don't know what I'm worth. You don't know what I'm worth. You don't know what I'm worth. You don't know what I'm worth.
Mais j'ai passé mon temps à bifurquer. Je suis parti de Shakespeare, mais j'ai tout le temps bifurqué. Mais tout en bifurquant, je me demande si je ne suis pas tellement, je ne vais quand même pas rester fidèle à l'esprit de Shakespeare. Parce qu'au fond, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de démythifier la tempête de Shakespeare. Il ne faut pas oublier, en effet, sans faire de l'histoire littéraire, mais je crois que La Tempête, comme beaucoup de pièces de Shakespeare, ont pour base une relation de voyage ou bien un fait divers. La relation de voyage, nous savons très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'Anglais, de personnes parties d'Angleterre et qui étaient parties coloniser l'Amérique. Ce sont des colons qui se rendaient en Virginie et qui ont fait naufrage dans une île qui s'appelle ou bien les Bermudes, ou bien les îles Vierges, mais en tout cas dans une île et qui est tout près des Antilles. Voilà. Voici la donnée réelle. Bon, il est tout à fait évident que pour l'homme que je suis, c'était extrêmement tentant de situer de manière plus précise cette île, et d'interpréter les personnages comme des personnages de colons. Et quant à ce Caliban, il est tout à fait évident que Caliban, c'est l'anagramme de cannibale. Par conséquent, vous voyez tout de suite ce qui a pu m'intéresser là-dedans, dans cette pièce. C'est vraiment la relation primitive, enfin, selon les termes hegeliens, la relation maître et esclave, qui me paraît la relation fondamentale. Dans la relation maître à serviteur, mais maître et esclave, mais c'est l'esclave qui est le plus important, parce que c'est l'esclave qui fait l'histoire.
C'était la voix d'Aimé Césaire et il évoquait la tempête. Florence Lazare, il y a plusieurs fils avec Aimé Césaire et votre exposition. C'est le titre de l'exposition qui est un extrait de La Tempête. Mais il y a aussi le collège Aimé Césaire de La Chapelle qui est présent parce que vous avez fait une série photographique avec eux. Pourquoi vous avez décidé d'appeler, que ce soit le titre en tout cas de cette exposition qui réunissait plusieurs territoires, plusieurs histoires ?
Bah, justement, ce que je pense que cette contraction, en tout cas de cette citation, pouvait justement relier, comme vous le dites, plusieurs territoires avec différents récits et tisser des liens. Je crois que la terre est chose morte. Bon, c'était évident que ça connectait avec mon dernier film que j'ai réalisé en Martinique. Justement, enfin, sur les questions de réappropriation, voilà, de la terre, parce que voilà, dans la tempête, Caliban, bon, c'est le monstre, c'est l'esclave, mais c'est celui aussi qui est détenteur d'un savoir de la nature, que le colon ne reconnaît pas ou que le colon va domestiquer. Hein, c'est tout un peu l'enjeu de l'histoire de la colonisation dans les Antilles et qui, à mon sens, perdure dans ce rapport à cette contamination de la terre par la chlordécone. Mais le titre renvoyait aussi à un autre endroit, voilà, de l'expo qui est Kamen, que j'ai donc ce film réalisé en Bosnie, où les vainqueurs de ce petit territoire recomposent le paysage au moyen de fabrication de toutes pièces d'un patrimoine.
L'exposition, on commence, on est en Serbie, il y a aussi une vidéo, on est à Paris, on est justement vers Barbès, au-dessus, à la Goutte d'Or.
Ouais.
Et puis il y a la Martinique. Vers quel territoire, vers quelle terre vous allez aller?
En fait, je vais continuer à aller en Martinique, parce que j'ai un projet d'un film plus long, sur cette question. De comment vivre sur une terre contaminée, toxique, parce qu'en fait cette question, voilà, c'est une manière de repenser, il me semble, l'égalité entre les ultramarins, les hexagonaux, mais c'est aussi une manière de réfléchir à... Pour reprendre peut-être le tout début de l'émission, sur la question de la catastrophe, la Martinique et la Guadeloupe d'ailleurs vivent dans un contexte de catastrophe, mais c'est depuis aussi cette catastrophe qu'ils sont en train de fabriquer des nouveaux espaces des nouveaux techniques agricoles. Enfin, ils essayent, en tout cas, à partir de ce lieu très concret, de vivre, de reprendre possession, quoi, de cette terre dont ils sont pour le moment dépossédés.
On sera parti des paysages qui disent qui sont les humains qui les habitent et qui ne se laissent pas raconter comme ça. Florence Lazare, l'exposition s'appelle « Tu crois que la terre est chose morte ?» C'est au Jeu de Paume, à Paris, et c'est jusqu'au 2 juin. Sébastien Bedbédé, Thomas Blanchard, « La terre entière sera ton ennemi ». Ce sera du 23 au 30 avril au Théâtre du Quartz à Brest. Sarah McCoy sera au Café de la Danse à Paris en concert le 25 septembre. Et avant ça, elle sera au Printemps de Bourges le 18 avril. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Pierrick Charles et Tahar Bouklifa. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche, et ce sera l'heure des nuits.